Bonjour, j'espère que Thomas Romer vous a montré cette chose. Vous la connaissez? Vous ne l'avez pas montré? C'est le colloque que nous comptons faire ici, justement sur la prophétie. Vous voyez, donc, on avait prévu de mettre une belle tablette, et puis en réalité, c'était trop sévère, et on a préféré mettre Jonas, enfin, j'imagine que c'est Jonas, avec sa... Alors, ce n'est pas vraiment une baleine, hein, mais c'est un gros monstre marin. Voilà, et vous avez, par la même occasion, vous voyez cette belle illustration en couleur que nous avons. Alors, nous allons aujourd'hui, je vais essayer de continuer avec vous, cette chose si compliquée qui s'appelle la population du temple. Je vais vous rappeler un petit peu l'essentiel de ce qu'on avait vu la semaine dernière, très rapidement, pour remettre les choses un petit peu en place. Alors, je vous avais dit que le temple, c'est un domaine privilégié de la documentation de l'Est. Et nous avons énormément de littérature, de documentation concernant les régions de l'Est, mais je vous avais dit que ça concernait surtout les hautes couches de la société du temple, qui reflétaient celles de la ville, n'est-ce pas? Et leurs archives, vous avez dit, concernent surtout un monde d'affairistes, avant tout masculin, ou pieux, avant tout féminin. Voilà, alors ça, on l'a pour les trois millénaires, et tout particulièrement pour le premier millénaire, où la documentation est extrême. Bon. Et je vous avais montré d'autre part, alors ce qu'il en était des temples de Syrie, en vous disant que par rapport à la grande documentation de l'Est, c'était de tout petits modules. C'était de tout petits modules. Et je vous avais montré les textes, un des temples que Charpin avait essayé de retrouver, avec une cour, une entrée et une toute petite cella dans laquelle la divinité devait se trouver et où on pouvait essayer éventuellement de mettre des choses extrêmement précieuses. Bon. C'était le deuxième point. Et je vous avais ajouté en plus, si vous vous souvenez, que ça ne suffisait pas pour définir le temple. Le temple syrien, il y avait ces tout petits modules qui étaient en briques et qui, archéologiquement, avaient laissé une trace, mais qu'il ne fallait pas considérer que le temple était une miniature par rapport à l'Est, parce qu'on se trouvait dans un domaine différent, dans lequel il y avait deux autres structures très importantes qui s'ajoutaient, sans que ça nous soit naturellement décrit, qui s'appelaient les cornes et qui s'appelaient les anneaux, et que ces choses s'ajoutaient au temple comme étant certainement des structures non pérennes, démontables ou périssables, ou tout ce que vous voulez, etc. Bon. Alors, c'était ça qui est... La preuve que l'on avait, c'est que les cornes et les anneaux sont des structures de temples qui se trouvent chez les Bédouins. Bon. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent encore. Il y avait certainement aussi une structure par lac, un lac sacré, mais je le laisse de côté, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Et dans ces cornes et dans ces anneaux, il y a des gens qui habitent. On voit éventuellement le roi et la reine qui peuvent y séjourner. Bon, ils sont au milieu de toute une série d'autres personnes. Et c'est cette partie non documentée de la population du temple qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'est parmi ces gens-là que se trouve la prophétie. Les grands dignitaires et les grands propriétaires qui se partagent les bénéfices du temple ne sont pas le milieu dans lequel la prophétie se produit. Ce sont des gens qui transmettent au roi ce qu'ils ont entendu, mais ils ne sont pas eux qui sont générateurs du discours avec la divinité. Alors, cette population qui est très difficile à atteindre parce qu'elle ne nous a pas laissé d'archives et qu'on ne peut la joindre que... par des allusions, par des fragments de documentation et tout le reste, et à Marie, comme par ailleurs ça se trouve, je vous avais dit, il y a des moments privilégiés où on peut l'avoir. Et je vous avais cité l'article célèbre de Gelb sur l'institution des arlois. Arlois, en séménien, ça veut dire qui est donné, c'est-à-dire les oblats, ce qu'on appelle les oblats, selon le terme latin, et qui est des gens offerts à la divinité. Eh bien, ces gens, d'après ce que Gelb avait étudié, représentent en réalité une véritable cour des miracles. C'est un endroit refuge dans lequel la partie de la population qui ne se sent pas bien dans la ville va spontanément, et quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on en fait cadeau au temple. Et The Arlois Institution fait allusion à la fin du troisième millénaire, tout particulièrement à la troisième dynastie d'Ur. Mais je vous avais dit, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce que c'est le moment où les Amorites arrivent. Et manifestement, les Amorites sont en train de s'installer, et ce sont des choses qui sont contemporaines de l'installation des Arlois. Le deuxième parti, eh bien, c'est la documentation qui peut nous provenir d'Icine. Alors, Icine, c'est quelque chose qui est postérieur à la dynastie, troisième dynastie d'Ur, c'est le moment où les Sémites s'installent et où Sumer disparaît. Et je vous avais dit qu'à ce moment-là, nous allions regarder la population des temples, et tout particulièrement, on va se focaliser sur un être particulier qui s'appelle l'Asinoum. Et cet Asinoum est celui qui va nous permettre de mieux comprendre un petit peu quelle est la population qui est autour de la divinité et qui ne fait pas partie des hautes classes du temple. Et je vous avais parlé de son étiologie. Les textes s'accordent à dire soit qu'il est né de la saleté que Enki avait sous les ongles, donc il s'est tiré de cette saleté, et à partir de cette matière, il a fabriqué l'Asinoum. Il faut toujours qu'il y ait un support physique, n'est-ce pas ? L'homme est fait à partir d'un bâton d'argile et à qui on insuffle la vie. Là, le bâton d'argile, il consiste dans la saleté que le dieu Enki, le dieu fabricateur des êtres, s'est retiré de dessous les ongles. Et je vous avais dit, la deuxième étiologie que l'on peut avoir, c'est la malédiction qui est donnée de cet individu par la reine des enfers, et cette définition, elle décrit la façon dont il va vivre dans la cité. Et on voit que c'est un paria, c'est quelqu'un qui n'a pas de chez lui, c'est quelqu'un qui se repose dans les endroits où il y a de l'ombre, mais il ne franchit pas les seuils. Il ne franchit pas les seuils, et il s'abreuve d'eau croupie, l'eau des réserves de la cité. Donc on voit tout à fait que c'est quelqu'un qui fait partie de la partie obscure de la population, ce qu'on appellerait de nos jours les défavorisés. Et l'Asinoum, je vous ai dit, en plus, on en sait suffisamment pour savoir que c'est un terme étranger. La population n'apparaît pas du tout. L'étymologie n'apparaît pas du tout. Et je vous ai dit, avec un terme étranger, on est automatiquement dans un terme qui reprend d'une façon négative le sens primitif. Et le fait qu'on ne sache pas ce que signifie réellement Asinoum dans la langue d'où ça vient, c'est sans doute du hourrite du Nord, ce n'est pas tellement important. Parce que l'étymologie ne rend pas compte toujours de l'emploi du terme. Alors, je vous ai mis l'étymologie de eunuque. À l'heure actuelle, c'est un terme qui est connu de tout le monde. Eunuque, bon, est quelqu'un d'impuissant ou quelqu'un qui n'est pas un homme complet, etc. L'étymologie, c'est eune plus écho, c'est-à-dire celui qui a la garde du lit. C'est-à-dire celui qui protège la partie féminine qui se trouve dans le palais ou dans la maison. Bon. De cette étymologie qui sert à dire quel est son rôle dans la maison, et qui correspond d'ailleurs très bien avec la définition de l'eunuque dans la société mésopotamienne ancienne, où c'est le sha'arishi, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la personne même du roi, donc qui a accès au quartier privé du roi et qui, par la même occasion, est considéré comme inoffensif, d'où son caractère d'eunuque. l'étymologie ne donne pas du tout le sens, n'est-ce pas ? Donc, asinum, même si ça fonctionne dans la langue postérieure comme étant un eunuque, il n'est pas obligatoire que son étymologie le signifie. Ça peut signifier purement et simplement quelqu'un qui est un des servants du temple. Quelqu'un qui est employé dans le temple a une tâche particulière et qui ensuite a été spécialisé en une sorte d'eunuque. Donc, que l'étymologie n'apparaisse pas est une chose qui n'est pas tellement dommageable pour l'étude. On peut tout à fait considérer que c'est normal qu'un terme étranger soit dans un registre qui soit négatif. Je vous avais dit d'autre part que les équivalents sumériens étaient surabondants. Ça prouve donc qu'il n'y a pas un équivalent sumérien, mais qu'il y en a plusieurs, et que par la même occasion, chaque fois, c'est un sobriquet qui est donné. Ce n'est pas une traduction, mais c'est un sobriquet. Et je vous avais dit que pili-pili, par exemple, ou pil-pil, ça ressemblait tout à fait à des interjections défavorables que l'on pouvait énoncer de dire quelqu'un. C'est une population qui est très souvent représentée par des équivalents à sobriquet. Et le dernier point que j'avais regardé, c'était le champ sémantique acadien. Dans les lexiques acadiens de synonymes, l'asinum, il est rangé avec le fou et avec le frénétique. Le fou, c'est le mouhoum, et le frénétique, c'est le zabou. Et c'est tout à fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tous ces gens font des prophéties. Et on retrouve là encore ce milieu extrêmement défavorable pour ce contact direct avec la divinité. Alors, quand les textes vous parlent de l'asinum, eh bien, on sait qu'il se livre à une musique étourdissante, il fait du bruit. Mais tout particulièrement avec des instruments. Alors, il a des tambours, il a des flûtes, il a des crécelles, il a tout ce que vous voulez, etc. Et puis, d'autre part, en même temps, ce sont des gens qui se déguisent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas habillés comme tout le monde, ils portent sur eux des habits qui, théoriquement, ne sont pas ceux que tout le monde possède. Et l'étymologie courante qui en est donnée accentue son aspect féminin par le fait qu'il est appelé, c'est là où j'avais terminé avec vous, il est appelé par le sobriquet de Sinishanum, et je vous avais dit qu'il ne fallait pas comprendre. Sinishanum est un terme qui est construit sur le nom de la femme, Sinishtum. Mais il ne faut pas le comprendre du tout comme étant un être efféminé, ça ne va pas du tout pour le sens, mais comme quelqu'un qui n'a plus sa virilité. Très souvent, quand vous voulez définir un terme, le plus simple est non pas de chercher un équivalent, mais de nier son contraire. Alors, non pas dire efféminé, mais quelqu'un qui n'est pas un homme. Et son idéogramme, qui est employé couramment dans la langue acadienne pour le désigner, c'est celui de Our et de Sal, Our signifiant le chien, et Sal signifiant tout ce qui est du domaine de la femme, avec des lectures particulières pour chacun. Vous pouvez avoir, comme en sumérien, n'est-ce pas, ce sont des sons qui sont en même, des signes qui sont en même temps des concepts, et chaque fois que vous introduisez une lecture, vous avez un sens particulier qui arrive. Alors, si le sal, c'est le nom propre du terme, si vous le lisez mounous, vous avez la femme, si vous avez gal, ben, vous avez le sexe de la femme, etc. C'est des choses comme cela qui se continuent. Et il est normal donc que dans la littérature actuelle, les gens qui ont à rendre compte du terme de asinum vous le définissent selon deux pôles qui sont celui soit de l'homosexualité soit celui de l'impuissance, deux termes naturellement qui n'ont en commun que leur aspect péjoratif, parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils sont équivalents. Tous les homosexuels ne sont pas impuissants, tous les impuissants ne sont pas homosexuels. Donc ce sont des termes qui sont des approximations à l'heure actuelle, absolument désastreuses pour rendre compte des termes, et qui, en général, renseignent plus sur le traducteur que sur le texte ancien. Alors, le grand argument homosexuel et impuissant, bon, les gens se répartissent, les uns qui traduisent d'un côté, les autres de l'autre. Ça ne peut pas marcher parce que le terme de asinatum existe, et asinatum, vous voyez, c'est le féminin. Bon. Il est difficile de mettre ces termes, les termes de, surtout d'impuissant au féminin. Et le terme de assinatum, qui est sur lequel il y a une grosse littérature répétitive, eh bien, après enquête, il n'arrive que dans une seule occurrence. Et cette seule occurrence, c'est un lexique ancien. Donc le terme existe, donc il rentre dans les dictionnaires. Mais si vous voyez les contextes, il n'y en a qu'un seul. C'est le terme de ugbaptum égale le terme de antum qui égale le terme de asinatum. Et si vous le prenez à l'envers, vous voyez qu'asinatum qualifie antum qui signifie la grande prêtresse et ugbaptum signifie la prêtresse, en règle générale. Bon. Et on se demande comment est-ce que les plus hautes personnalités religieuses féminines peuvent se voir caractériser d'assinatum, surtout que alors en plus, elles ne s'intéressent pas du tout au contact direct avec la divinité, si ce n'est pour lui prier, et elles ne font aucune prophétie. Eh bien, ça c'est quelque chose qui n'a pas été très bien reconnu en assyriologie et qui est une chose extrêmement importante. Il y a au premier millénaire, et c'est celui que nous connaissons le mieux et celui par lequel nous avons commencé l'étude de la assyriologie. Un énorme courant qui est anti-religieux. Et il est bien évident que dans une société où l'idéal est la famille, et tout particulièrement la famille sous l'aspect de la procréation, c'est-à-dire que plus on a d'enfants, mieux c'est. À une époque où, naturellement, il y a une perte humaine absolument énorme. Avoir 10 enfants ne consiste pas à avoir 10 personnes autour de soi. On en garde 2 ou 3. Donc, effectivement, c'est un aspect de survie, en quelque sorte. Bon. Les gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie sont considérés tous comme des dévillons ou comme des gens qui sont des marginaux. Et tout particulièrement les prêtresses qui se marient à la divinité et qui, par définition, n'en ont pas d'enfants, sauf cas rarissimes dont il vaut mieux ne pas parler. Bon. Ces gens, on leur prête tous les défauts possibles et imaginables et toutes les débauches possibles et imaginables. Et pour comprendre cette littérature anti-religieuse du premier millénaire, c'est extrêmement simple, il faut se tourner vers la littérature que vous avez en France, au XIXe siècle contre les jésuites, au XVIIIe siècle contre les moines, dans lesquels, naturellement, ces gens qui vivent dans des communautés unisexes et qui n'ont pas d'enfants, et qui ne manquent pas de moyens par ailleurs, sont considérés comme des profiteurs et comme des gens qui savent y faire, c'est-à-dire qu'ils se permettent toutes les débauches possibles, mais il n'y en a pas de traces. Et tout particulièrement, ces prêtresses qui n'ont pas d'enfants, ce sont des femmes débauchées, mais elles savent comment ne pas avoir d'enfants. Et elles se présentent en quelque sorte comme ne portant pas sur elles-mêmes la marque de la débauche à une époque naturellement où la contraception n'existe pas et où surtout ne pas amener un enfant à terme représente un risque absolument considérable. Alors, qu'est-ce que l'on raconte sur ces pauvres femmes ? Eh bien, ce que l'on raconte, c'est que la grande prêtresse, on dit que c'est une personne qui pratique naturellement, qui a une sexualité débridée, pour lequel on emploie un terme technique, si vous me permettez, qui est le terme de shurum. Le terme de shurum vient du substantif shurum, qui signifie les fesses ou l'anus, bien sûr. C'est-à-dire qu'on considère que, en tournant le dos au problème, si j'ose dire, elle peut se permettre tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas d'enfant. Voilà. Et c'est à partir de cela que naturellement, on vous fabrique ugbaptum égale antum. Alors, antum, c'est le terme archaïque, ugbaptum, c'est le terme vivant. on vous dit, toutes les deux, c'est des asinatum. Ce sont des femmes qui pratiquent, à ce moment-là, une façon de faire l'amour qui leur permet de ne pas avoir d'enfants. Et il est bien évident que toute cette littérature du premier millénaire est quelque chose qui est fabriqué. De la même façon qu'au XVIIIe siècle, toute la littérature antireligieuse est extrêmement intéressante pour voir les questions des mentalités, mais on ne peut pas, à partir de cette littérature antireligieuse, déclarer que tous les monastères et tous les cloîtres sont des endroits de turpitude et de folie sexuelle. Bon. Et pour les jésuites au XIXe siècle, naturellement, ça s'est doublé par le fait que c'était eux qui avaient en charge les enfants et qui était l'ordre qui enseignait, et qui, par naturellement, à mesure où il y avait contact entre des gens non mariés et des jeunes enfants, eh bien, à ce moment-là, vous imaginez ce que l'on pouvait raconter d'eux. Alors, moi, je crois que la comparaison entre ces deux sortes de littérature, cette littérature antireligieuse moderne et cette littérature antireligieuse du premier millénaire, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est un genre littéraire qu'il faudrait examiner de beaucoup plus près. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comparaisons qui peuvent être faites. Mais ça ne permet pas de raconter la société réelle à partir de cette littérature pamphlétaire. À côté de cela, naturellement, vous allez me dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et effectivement, on va voir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, au premier millénaire, ou dès la fin du deuxième millénaire, tout de suite, le terme de asinum est compris comme étant quelqu'un qui est un homosexuel et un homosexuel passif. Vous voyez, par exemple, dans YOS 10, qui est un texte du début de l'époque cassite, donc un petit peu après l'époque paléo-babylonienne, le propriétaire du mouton, c'est-à-dire celui qui demande à ce que le devin fasse son office, se livrera à l'asinutum, c'est-à-dire à l'état de asinum. Il pratiquera l'asinum. Vous en avez un autre exemple, alors, du premier millénaire exactement. Si un homme s'est approché d'un asinum, s'approcher d'eux est le terme technique en acadien pour signifier avoir un rapport sexuel. Alors, ça fait partie de ces tabous, si vous voulez, d'expression, etc. Alors, je ne tiens pas du tout à nier qu'il y ait des emplois au premier millénaire d'asinum de ce genre. Je ne tiens pas du tout à nier l'existence d'une littérature antireligieuse extrêmement importante. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment, à l'époque de Marie, à l'époque paléo-babylonienne, se présentait cette société et pourquoi, après, elle a été interprétée de cette façon-là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, pour regarder ces problèmes d'une façon précise, nous allons prendre une grande œuvre de l'époque de Lycine. C'est celle qui s'appelle Idin Dagan A. C'est-à-dire que les grandes œuvres sumériennes, en général, sont appelées ABCD, etc., et regroupées en fonction d'une divinité ou d'un roi. Idin Dagan est un roi d'Issine, et on l'a appelé A, le premier, parce que c'était le mieux conservé, le plus clair, ce qu'on pensait être le plus clair, etc. Quel est le sens de Idin Dagan A? Eh bien, c'est l'acclamation par le temple de Eshtar. Inanna ou Eshtar, c'est pareil. Inanna, c'est du sumérien. Eshtar, c'est de l'acadien. C'est l'apparition de la planète Vénus au début de l'année. Alors, elle apparaît brillante au ciel et elle est acclamée. Le lever de Vénus, l'étoile Vénus, coïncide avec le début de l'année et ça fait partie d'un de fêtes tout à fait particulières qui consacrent ces fêtes. Et secondairement, ce texte qui chante l'apparition de la déesse Eshtar, c'est-à-dire la planète Vénus, au début de l'année, a été récupéré dans le culte du mariage sacré. Le mariage sacré est une structure qui est extrêmement obscure, mais sur laquelle il y a une littérature contradictoire énorme, dans laquelle, je vous ai dit, le roi épouse, en théorie, la déesse, et le rôle de la déesse étant tenu par une prêtresse. Et de ce rite de mariage sacré dépend la fécondité de tout le royaume et pendant toute l'année. Bon, ça c'est quelque chose. Et puis les études de Cramer, Noël Cramer, qui a montré les premiers textes, on le constate, il y a une phraséologie extrêmement bizarre dans laquelle on n'arrive pas toujours à comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais Idin Dagan A est manifestement un texte d'acclamation de la déesse par le personnel du temple auquel on a secondairement ajouté un rite de mariage sacré. Alors ça, c'est la deuxième partie, naturellement, excite énormément la littérature scientifique à l'heure actuelle, et je suis de ceux qui pensent que les deux parties du texte originairement n'étaient pas ensemble. Et là, je pense qu'il y a un gain considérable qui a été fait par les études en sumérienne. Alors, comment étudier un texte sumérien? Eh bien, on a la chance qu'à l'heure actuelle, un de nos collègues sumérologues nous a donné une édition de ce texte. Et les savants sont moutonniers, ils ont des textes édités dans l'ancien temps, qu'ils vont voir, sur lesquels ils répètent toujours les mêmes choses, et dans un texte sumérien, l'essentiel, c'est pas tellement d'arriver à le comprendre, c'est d'établir le texte, parce que c'est l'établissement du texte secondairement, la compréhension va venir. Alors, vous avez donc la version récente, je vais donner, si vous tapez sur Internet ce que je vous ai indiqué, vous avez automatiquement l'édition en français, en sumérien et en français, avec une annotation de Attingé qui va vous donner ce que vous voyez que UNIBE, ça veut dire Université de Berne, et CH, c'est Confédération Helvétique. Donc c'est assez facile à se souvenir. Sinon, si vous voulez voir ce qui est le bien de tout le monde, vous tapez ETCSL, et là vous avez accès à ce moment-là à toute la littérature sumérienne disponible dans des éditions composites, avec des textes qui sont très souvent des non-textes et avec des traductions qui dépendent de ces non-textes. Alors, il est bien évident que l'édition donnée par Attingé à l'heure actuelle est une réaction violente contre la Bible des sumérologues qui est ETCSL. Il n'en reste pas moins que, si vous avez la curiosité d'aller voir, l'édition par Attingé reste très obscure. Par le fait même qu'un texte sumérien répond à des normes de rédaction qui ne sont pas les nôtres. Et que, tout particulièrement, ce sont des textes qui sont chantés et dans lesquels il faut absolument arriver à savoir ce qui est du chant et ce qui est de la narration. Alors, en l'occurrence, pour Idin Dagan A, c'est extrêmement simple. Le chant est la répétition du même refrain. Et il faut essayer, naturellement, pour arriver à le trouver, de supprimer le refrain du texte. Alors, je vous ai mis le refrain en italique, et le texte en caractère normal, et il faut naturellement faire l'économie du refrain pour arriver à comprendre ce qui se passe. Alors le refrain, c'est le groupe défile la rejoindre, parce qu'elle s'est levée sur l'horizon et il y a une théorie qui s'avance vers elle. On est dans la cour du temple. Le groupe défile la rejoindre, la lumineuse Inanna. Alors, lumineuse, parce que c'est l'étoile de Vénus, est une étoile particulièrement brillante quand elle se lève et qui est particulièrement majestueuse et qu'on ne peut pas ne pas remarquer, disant « Je veux saluer la grande reine des cieux, Inanna ». Et ça va sans cesse être répété. Si vous laissez ce texte à l'intérieur, le texte perd absolument tout sens. Ce que vous avez en réalité, c'est le groupe avec l'algar sacré tape pour elle, la déesse, naturellement, du plat de la main. Le groupe frappe pour elle du plat de la main l'oube et le lilis en argent. Le groupe frappe pour elle du tranchant de la main les balagues et les lilis sacrés. Et vous voyez ce qui se passe. Vous avez des instruments de musique. On considère maintenant que ce sont des sortes de tambours. Il y a toute une série de tambours. Bon. Et on tape dessus, soit avec le plat, soit avec le tranchant, c'est-à-dire avec le côté de la main. Et l'algar, oube, lilis, tout cela, ce sont des choses sur lesquelles on pourrait, il y a une énorme littérature, on pourrait en discuter, mais ça n'apporterait pas grand-chose dans la mesure tant si on ne voit pas les appareils. On ne peut pas savoir exactement quelles sont leurs spécificités. Alors, il n'y a pas de... On ne dit pas qui c'est. Pour une bonne raison, c'est que c'est en sumérien, on commence toujours par vous dire quelque chose de général, et c'est dans un deuxième temps que vous avez quelque chose de particulier. On vous dit toujours la déesse pure, et ensuite on vous dit la déesse Inanna. C'est toujours... On va toujours... le général d'abord, le particulier ensuite. Alors, ce que vous allez avoir, vous voyez ici, vous avez déjà un groupe qui vous fait du bruit. Vous imaginez que si chacun a sa sorte de tambour entre les mains, le bruit, les décibels doivent se multiplier. Kirugu, c'est le terme technique en sumérien qui signifie moment du chant. C'est un moment du chant. Et on pourrait dire cantique, partie, disons, ça revient à dire partie, des vers 35 à 43. Le premier, de 1 à, 30, à 34, c'est l'annonce de l'apparition de la déesse. Alors, ces gens qui ne sont pas dénommés dans le troisième Kirugu, ce sont ceux qui vont être appelés ensuite de façon spécifique dans le texte par Sag-Ursag. Et ce sont ceux-là qui sont les Assinou. Sag-Ursag est une des façons de dire Assinou à l'époque. Et alors, voici le quatrième Kirugu. Les Sag-Ursag se sont coiffés pour elle. Ils ont bariolé pour elle les chignons avec des rubans. Sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Hommes vertueux et reines, chefs et doyennes des nobles, ils ont mis de côté la quenouille qui file les rations de laine, le ceinturon force la bataille est saint, le bois qui porte au loin force la bataille se trouve dans leurs mains. Vous voyez que le texte n'est pas d'une clarté absolue. Il faut naturellement le reprendre pour essayer de le comprendre. Si vous ajoutez le refrain au milieu, alors plus personne ne comprend rien à ce moment-là. Bon, vous voyez comment ils se présentent. Ce sont des gens qui portent les cheveux longs, se sont coiffés pour elle, ils ont bariolé pour elle les chignons avec des rubans. Ce sont des gens qui portent des cheveux longs, qui les ont noués derrière la tête en chignons avec des sortes de cadogans, et qui se sont mis des rubans qui pendent derrière. Ce sont des choses qui, naturellement, dans la mode sumérienne, paraît un petit peu bizarre, ou la mode acadienne de la même façon. Ce sont donc des gens, quand ils se présentent, quand ils se promènent comme ça dans la ville, sont certainement des gens qui sont remarqués. Bon. Ce qu'il faut comprendre d'autre part, c'est que tout ce groupe n'est composé que d'hommes, dont on va parler à la fois comme des hommes et comme des femmes, hommes vertueux et reines, chefs et doyennes des nobles. Ce n'est pas le roi et la reine qui interviennent dedans, tout ça, ce sont les mêmes, ce sont des catégories de Sag-Ursag. Ils représentent une partie de la population du temple parmi lesquels ils ont un roi et une reine. Ils ont des vieux et des vieilles, des gens anciens et des anciennes, n'est-ce pas? Bon. Et le vers 53, ils ont mis de côté la quenouille qui file les rations de laine. C'est un vers qui montre que les occupations de ces gens sont en même temps des occupations féminines. Un homme ne touche jamais une quenouille. La quenouille est ce que l'on appelle l'arme de la femme. Bon. Alors, si vous regardez ce vers 53, eh bien, c'est un vers qui a été taboué. Parce que un homme, dire d'un homme qu'il portait la quenouille, il portait la quenouille et qu'il s'occupait d'une quenouille, ça veut dire c'est comme si on parlait à l'heure actuelle d'homme qui tricote. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas honorable. Quel est le scandale ? Eh bien, le scandale, c'est que la version que vous avez dans certains textes, c'est non plus la quenouille, mais ils ont mis de côté le balag, c'est-à-dire le tambour qui cause l'apaisement. Et je vous en donner un exemple, c'est-à-dire que chaque fois, on a truqué le terme sumérien pour un autre, c'est-à-dire que gishbala, qui signifie la quenouille, a été transformé en gishbalag, qui signifie l'instrument de musique. Alors, il est tout à fait c'est extrêmement intéressant que dans la littérature, vous ayez des parties qui soient transmises avec un sens qui est taboué. Parce que toute cette littérature que nous avons, ce ne sont pas des littératures de bibliothèque, ce sont des bibliothèques, ce sont des littératures d'étudiants et de jeunes étudiants. Et il est évident que, manifestement, pour quelqu'un qui lit la littérature à cette époque-là, le vers tel qu'il est donné ici, ils ont mis de côté la quenouille qui file l'aération de laine, identifie tellement des membres du sexe masculin à des femmes que ça fait scandale et qu'on ne peut pas le faire et qu'on change le texte. Et il y a manifestement des gens que ça a gêné de transmettre ce texte-là. Il y a plusieurs textes de ce genre, marques de ce genre, où les textes sont changés. Moi, je me souviens, lorsque je regardais la littérature en classe de troisième, à ce moment-là, on commençait à faire un petit peu de la littérature ancienne. Ce que l'on apprenait, c'est pour qui fut Châtillier et puis moine Pierès Bayard à Saint-Denis, et ce n'est qu'après que j'ai découvert le véritable texte, pour qui fut Châtré et puis moine Pierès Bayard à Saint-Denis. Mais pour des gosses qui sont en troisième, on ne dit pas Châtré, mais on dit Châtillier. Châtillier, c'est transmissible à quelqu'un de jeune, Châtré, non. Eh bien, de même, vous avez ici, en voici un exemple, n'est-ce pas ? Le bala est transformé en balade. Et qui cause l'apaisement, c'est de la même façon un trucage sur le sumérien à la place de qui file des rations de laine. Alors, je ne peux pas vous démontrer philologiquement toutes les implications de ce que je vous dis, mais je vous demande de me faire confiance. Bon. Alors, ils ont mis de côté la quenouille, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ces gens avaient des activités de femmes. Un chignon, ce n'est pas porté par un homme. De toute façon, l'homme, il a la tête rasée à l'époque. La femme, c'est différent, elle a les cheveux longs. Et vous voyez ce qui se passe. Ils ont laissé de côté la quenouille pour prendre le ceinturon. Et au ceinturon, on porte le poignard, on porte le couteau, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les occupations des femmes pour prendre les occupations d'hommes. Vous allez voir ce qu'ils en font, les occupations d'hommes. Ensuite, vous avez le bois qui porte au loin, force de la bataille se trouve dans leurs mains. Alors là, le bois qui porte au loin, ça c'est une épithète, je n'ose pas dire homérique, puisqu'on est à Sumer, ça signifie rien, c'est-à-dire que dans certains textes ça signifie l'arc composite, dans d'autres ça signifie la lance. Ici, je me demande si ça ne signifie pas en réalité le couteau qu'éventuellement on lance à quelqu'un de loin pour qu'il se le prenne en pleine figure, en pleine poitrine, etc. Le bois qui porte au loin n'est pas un terme générique, c'est un terme descriptif. Un autre vers extrêmement important se trouve le vers 49. Vous voyez, sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Si je vous dis ça en français, en théorie, vous ne devez rien comprendre. Bon, et effectivement, dans les éditions, on n'a strictement rien compris. Et regardez ce que les commentateurs en ont fait. Voilà, je vous ai repris le vers 49, sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Gwendoline Lake, dans un ouvrage qui s'appelle, qui est un bon ouvrage, un ouvrage intéressant à lire. littéraire, hein, Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature, qui est apparu en 1994. Elle vous dit, le texte sumérien, c'est Kush Nam-Dingira, le corps de la divinité. Eh bien, il s'agit d'une particularité physique des Sagursag attribuée divinement sur eux. Et alors, c'est là où le savant moderne se lâche. Il vous dit, elle vous dit, c'est une malformation génitale, un hermaphroditisme ou l'absence de partie génitale extérieure. Bon, pas pour comment Gwendoline a pu imaginer des choses aussi abominables, n'est-ce pas ? Enfin, elle a publié et alors c'est cité à l'heure actuelle. Et moi, quand je me reporte au texte, ça n'apparaît pas. Enfin, on aimerait un peu plus de concret pour dire des horreurs de ce genre. Ça remonte à quoi ? Ça remonte à Gelb, où je dis tout à l'heure, où Gelb vous dit, dès que quelqu'un est un réprouvé ou quelqu'un qui a des choses à cacher, hop, on l'envoie au temple. Alors, par définition, comme vous avez ici la suite logique avec les gens du temple, eh ben, vous avez toujours quelqu'un qui, on aurait préféré que ce soit un savant allemand barbu, n'est-ce pas, qui dise ça ? Bon. Pas du tout. Ça a été... Alors, les gens vous disent, sur leur corps se trouve le corps de la divinité, il faudrait quand même donner un sens. Moi, je pense qu'il y a un sens. Je pense qu'il y a un sens. Ils ont peut-être des malformations génitales, je n'en sais rien. J'espère que non. Peut-être pour s'ils ont non, pourquoi pas. Moi, je préfère remettre ce vers dans la lignée de la littérature mésopotamienne. Et il y a une chose qui apparaît, c'est que à l'époque néo-babylonienne, c'est-à-dire si vous prenez toute la littérature et si vous ne segmentez pas siècle par siècle, en quelque sorte. Hein, bon. Vous avez le terme chamatoum qui signifie marqué. Et Marie vous dit marqué avec de l'encre. Maintenant, on le sait, c'est marqué avec de l'encre. C'est la technique du tatouage. C'est la technique du tatouage. Et ce qui est caractéristique de l'époque néo-babylonienne à Uruk, c'est qu'on vous dit ils sont tatoués avec une marque en étoile. Or, la grande divinité de Uruk, c'est la déesse Eshtar, la même que celle qui apparaît dans le ciel au moment où vous voyez l'étoile qui apparaît. Et vous avez l'expression qui convient et qui vient toujours, « Inashindu parzili shabeltisha Uruk », c'est « porteur du tatouage fait au moyen de l'objet en fer et qui représente l'étoile de la dame d'Uruk ». C'est-à-dire que les gens qui appartiennent à la population du temple ont un tatouage précis qui leur est fait, et alors peut-être au fer rouge, je ne sais pas, ou bien tatoué avec de l'encre, avec des pointes pour faire entrer, etc. Et je pense que c'est ça que ça signifie, c'est-à-dire que sur leur corps se trouve le corps de la divinité, ce sont des gens qui portent sur eux la marque de la divinité qu'ils adorent, et d'après la littérature récente du premier millénaire, on peut se douter que ça peut être un tatouage. Donc ce n'est pas du tout une malformation intime, mais c'est simplement que les gens qui appartiennent à la déesse portent la marque de la déesse. Bon. Alors, c'est peut-être réducteur ce que je vous propose, mais je ferai l'économie de toutes ces horreurs qui sont énumérées comme cela. Le cinquième Kirug. Alors, ça va aller en s'accélérant. Chez ceux qui sont du côté droit, alors, c'est-à-dire ceux qui s'avancent vers la déesse, hein, bon, ceux qui sont du côté droit, le groupe est revêtu d'un habit masculin. Chez ceux qui sont du côté gauche, vrai, le groupe a mis bas l'habit. Il se défie à la corde à sauter faite de fils multicolores. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe est scindé en deux parties. Ceux qui sont du côté droit sont revêtus d'un habit masculin, c'est normal, ce sont des hommes. Ceux qui sont du côté gauche, ils ont mis bas l'habit, il faut comprendre, ils se trouvent nus. Alors, c'est quoi comme habit ? Bon, J'aimerais bien savoir quelle est la différence entre un habit masculin et un habit féminin. Ce n'est pas tellement évident d'après les textes. On peut imaginer que les hommes et les femmes ne sont pas habillés de la même façon, mais il est très difficile dans une littérature, dans une civilisation qui ne vous a pas laissé de documentation figurée, de savoir comment serrer les choses les unes par rapport aux autres. Bon. Mais là, le texte est extrêmement simple. Ceux qui sont du côté droit sont revêtus d'un habit masculin, ceux qui sont d'un habit gauche ont mis bas l'habit. C'est une correction qui vient de l'édition de Attinger. Jusqu'à présent, l'édition courante était ceux qui sont du côté droit sont habillés d'un habit masculin, ceux qui sont du côté gauche sont habillés d'un habit féminin. La véritable traduction étant, sur leur partie droite, ils sont habillés comme des hommes, et sur la partie gauche, ils sont habillés comme des femmes. Alors là, on demande un dessin. Ceux qui traduisent comme ça, on leur demande comment faites-vous pour avoir un habit qui, du côté gauche, est masculin, du côté droit, est féminin. Bon, il faudrait le voir. La traduction que je vous donne est grammaticalement bien meilleure. Ceux qui sont du côté droit et ceux qui sont du côté gauche. Qu'est-ce qu'ils font ? Il se défie à la corde à sauter faite de fils multicolores. Il est bien évident que le récit n'est pas continu. Il n'y a que des moments de la procession qui nous sont décrits. Et c'est ça qui est difficile à suivre. La seule chose qu'il peut savoir, c'est que la corde à sauter, le échémine des textes, est quelque chose qui est voué par définition à la déesse Inanna ou à la déesse Ishtar, ce qui revient au même. La corde à sauter est quelque chose qui est extrêmement important dans le rite pour la déesse. Mais ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que seules les femmes pratiquent ce rite. Les hommes, non. Donc, vous voyez, là, ici, de la même façon, comme vous l'avez ici, la quenouille qui vous fait apparaître la féminité parmi leurs rangs, et on vous dit explicitement au vers 51 qu'il y a une reine parmi eux et qu'il y a des doyennes. Hein, bon. Et vous allez voir qu'en réalité, ce sont ceux qui se sont émasculés à ce moment-là. On les voit déjà qui apparaissent, et ce sont eux qui sont comptés comme des femmes. De la même façon que vous avez la quenouille qui montre la féminité là-dedans, eh bien, vous avez ici la corde à sauter. La corde à sauter est un trait dirimant de la féminité. Et ensuite, le sixième kirugu, eh bien, montre comment ça se termine. Alors après, commence tout à fait autre chose, on s'arrêtera au sixième kirugu. Ce sont des jeunes gens à qui le carcan est mis, ils forment une chaîne en son honneur. Ce sont des femmes jeunes et vieilles, ils sont coiffés d'un chignon sur la nuque. Couteau et stylet par devant elles, ensemble, ils... Là, le texte est cassé, on ne peut pas le comprendre. Mais cassé, hein, donc c'est pas parce qu'il y a un problème linguistique. Se redressant Kourgara, ils ont saisi le poignard, ils couvrent de sang leur couteau, ils répandent le sang vermeil. Sur l'estrade du hall de l'assemblée, il y a des aspersions de sang. Le groupe fait retentir les instruments Tigui, Shem et Allah. Tigui, Shem et Allah, ce sont de nouveaux instruments de musique qui apparaissent. Alors, le sens devient maintenant extrêmement clair. Quand la déesse Inanna, ou la déesse l'étoile Vénus, apparaît au soir, il y a la formation d'une grande procession qui se fait, dans lequel vous avez des gens qui sont mélangés, tantôt hommes, tantôt femmes, quoi qu'ils soient, tous hommes, tous masculins, tous masculins. Et ces gens s'avancent au milieu d'un vacarme absolument invraisemblable, tapant de toutes les façons possibles sur des instruments de musique, faisant un bruit inimaginable, et dans des moments de ce genre, il est ce qui apparaît, on peut tout à fait le prévoir, c'est une frénésie. C'est-à-dire que les gens se saoulent de bruit, se saoulent de, euh, de cris. On peut imaginer naturellement qu'il doit y avoir tout un apport de sonore divers. Et une fois qu'ils sont saoulés de ces choses-là, eh bien, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. Ils sont dans un état second, et c'est à ce moment-là qu'arrive le rite de l'automutilation que vous avez de façon très claire à la fin du texte. Hein. Ils couvrent de sang leur couteau, ils répandent de sang vermeil. Sur l'estrade du sang du hall de l'Assemblée, il y a des aspersions de sang. Et ça se termine par le vers 79, le groupe fait retentir les instruments Tigui, Shem et Allah. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on se trouve au XVIIIe siècle avant le Christ. On voit que vous avez une population dans laquelle vous avez manifestement des occupations féminines qui sont prises, mais c'est normal, parce qu'ils sont voués à une déesse. Et dans la mesure où ils sont voués à la déesse, ils prennent le rythme de vie d'une femme. Et on n'a pas de choses de ce genre avec des dieux masculins. Et vous allez voir, quand on terminera l'exposé par les sources grecques, tout ce que cela apporte justement à la compréhension de ce que les Grecs ont vu et nous ont raconté, avec un scandale complet, naturellement, parce que alors, pour un Grec, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, à côté de la grande déesse, naturellement. Alors, ce sont des jeunes gens à qui le carcan est mis. Le vers est moins obscur qu'on ne pourrait le penser, parce que ces gens qui portent un carcan sont comptabilisés parmi les gens du temple. Les textes lexicaux vous disent qu'il y a une partie du personnel liturgique qui se met sur le cou des carcans. Donc, ce ne sont pas des prisonniers. Il ne faut pas l'interpréter comme des prisonniers, mais il faut l'interpréter comme des gens qui miment quelque chose. Alors, vous voyez ce qui nous manque ? Il nous manque le rituel qui nous indiquerait pourquoi toutes ces notations. On a des moments du culte, mais on n'a pas le récit continu. Ils forment une chaîne en son honneur, c'est-à-dire qu'ils se tiennent les uns aux autres, et ils forment à ce moment-là une espèce de groupe humain qui s'avance. Alors, vous avez dans la littérature cinématographique ethnologique à l'heure actuelle beaucoup de scènes que vous pourriez mettre derrière tout cela. Mais il est évident que ces gens qui se tiennent par la taille et qui s'avancent, qui ondulent, qui forment une sorte de reptile qui s'avance comme cela, vous en avez beaucoup d'exemples, mais comparaison n'est pas raison. Je ne peux pas savoir exactement comment ça se passe. Alors, deuxième catégorie, ce sont des femmes jeunes et vieilles, ils sont coiffés d'un chignon sur la nuque, on revient à la partie féminine qu'on avait auparavant. Et couteau et stylet, etc., alors, c'est là que ils se mutilent, ils se tailladent, et c'est certainement là qu'il y a un rite, il faut supposer, un rite d'émasculation qui apparaît, et il y a des hommes qui font le sacrifice à ce moment-là de leur virilité, et là, le texte sumérien le taboue complètement et ne le dit pas, et c'est la littérature secondaire qui vous le dira. C'est-à-dire que les étrangers qui apparaîtront et qui le verront le raconteront. Mais il faut prendre la littérature à ce moment-là dans tout son ensemble. On a déjà des parties, je vous ai montré, où les Sumériens n'acceptent pas ce qui est dit et truquent leur texte. Et il faudra attendre qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent raconter ce qui peut se passer. Alors, moi, je pense que dans une société de ce genre, il est bien évident que pour l'extérieur, c'est scandaleux. Vous avez des gens qui se conduisent en hommes et en femmes, vous avez des gens qui se mutilent, vous avez des gens qui poussent des cris, qui hurlent, etc., qui sont des asociaux. Les gens normaux qui voient ça à côté, les bons pères de famille, les bonnes mères de famille, considèrent que ce n'est pas un spectacle à donner à tout le monde. Et il est évident que après Vous imaginez ce que l'on peut raconter sur tous ces gens. C'est de là que vient naturellement toute la littérature antireligieuse qui va faire florès aux autres époques. Et cela est évident, si vous prenez un texte du premier millénaire, comme le poème de Héra, au chant 4, on vous dit, alors, la ville est pillée et on emmène tous les gens. Et parmi le temple, ils enlèvent de l'Eana, l'Eana c'est le grand temple de l'Ishtar, justement, ils enlèvent du grand temple d'Ishtar le Kourgarou et la Sinou, dont Ishtar, pour édifier les gens, a changé la virilité en passivité, porteur de coutelas, porteur de rasoir, de canif et de silex taillé, qui se fit au bon plaisir d'Ishtar. Et c'est là que vous avez le thème de l'émasculation qui apparaît dans la littérature, mais qui apparaît naturellement d'une façon voilée, hein, a changé la virilité en passivité, porteur de coutelas, porteur de rasoir, etc. Si vous regardez maintenant, vous revenez au sixième Kirugu, vous avez un vers qui est extrêmement intéressant, le vers 74. Vous avez vu que ces gens qui sont uniquement des hommes, on les traite d'hommes ou de femmes, de femmes jeunes ou de femmes anciennes, choses de ce genre, etc. Bon. On commence par dire que ce sont des sagoursag, c'est la façon normale d'appeler la sinoum. Au vers 74, ces gens qui forment des processions, ces processions qui se compliquent par le fait que les gens se mettent des choses sur la tête, se prennent par le cou ou par la taille, etc., forment des chenilles humaines ou des serpents humains, comme vous voulez, etc., tout d'un coup apparaît la caractéristique de Kourgara. Et comme vous avez dans les textes du premier millénaire, vous avez l'impression que vous avez deux catégories. Vous avez la catégorie de l'Assinou d'un côté et la catégorie du Kourgarou de l'autre. Et en réalité, si vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que le Kourgarou, ce n'est jamais, ou le Kourgara, ce n'est jamais que un Assinou qui, à un moment de la procession, devient un Kourgarou. C'est-à-dire que ensuite vous avez deux statues opposées, l'Assinou qui n'est pas devenu le Kourgara et le Kourgara qui est un ancien Assinou devenu Kourgara. Vous l'avez ici par ce redressant Kourgara, ils ont saisi le poignard. Et je pense que ce vers signifie d'une façon extrêmement précise que lorsque l'Assinou, ivre de bruit, ayant perdu conscience de l'endroit où il se trouvait dans un état second, s'automutile, répond son sang, c'est à ce moment-là qu'il devient un Kourgara. Et vous avez une population qui est extrêmement unie et vous avez différents moments pour lesquels les gens se gardent leur intégrité physique ou s'automutilent. Et à ce moment-là, ils deviennent le Kourgarou. Et c'est quand on regarde après les autres textes, il n'y a pas différentes sortes, n'est-ce pas ? Il y a simplement quelqu'un qui assume différents rôles. Et bon, une fois qu'il s'est automutilé, à ce moment-là, naturellement, il est définitivement un Kourgarou. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a deux sortes de prêtres différents. C'est un qui s'est assumé complètement et qui est devenu quelque chose d'autre. Alors, si vous voulez faire des comparaisons, eh bien, vous regardez ce qui se passe pour les hijras aux Indes. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais c'est une partie de la population des Indes. On trouve plus d'un milliard d'habitants, on peut trouver n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, n'est-ce pas ? Bon. Ce sont des gens qui se caractérisent par le fait qu'ils sont biologiquement des hommes, mais ils ont soit décidé de se faire émasculer à l'adolescence, mais certains sont en même temps intersexués, ou même biologiquement sont des femmes. Alors, vous avez encore à l'époque actuelle, dans l'Inde, cette population qui s'appelle Hijra, et qui permet de voir encore à l'heure actuelle ce que tous les tabous modernes empêchent de regarder dans nos sociétés actuelles. Bon. les automutilations, les choses de ce genre, bon, en général, on prend les gens et on les envoie au médecin, on leur met une camisole de force, on ne permet pas la chose de se passer. Mais ça se présente là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une grande tradition historique de l'Inde, encore actuelle, qui se passe dans un lieu précis, qui est Kuvagam, alors au sud de Madras, qui est rattaché par son affabulation au grand texte du Mahabharata, ce qu'ils prétendent qu'ils sont en train de... rejouent une partie du Mahabharata, ils incarnent un moment donné, et c'est naturellement sous le signe de Krishna. Bon, alors, c'est une littérature actuelle, c'est une littérature qui est assez facilement accessible. C'est vrai qu'on peut comparer tout à fait le rite des Hijra avec le rite des Galles de la Grande Déesse ou bien avec les Assinous de l'époque mésopotamienne. Bon. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est que la mentalité moderne ayant complètement changé et les traditions historiques étant perdues de plus en plus, qu'est-ce qui se passe avec les Hijra? C'est que les hindous modernes développent envers eux ce que l'on appelle l'homophobie primaire. Et ils sont considérés à ce moment-là, non plus comme des parties intégrantes de l'héritage indien, mais comme des aberrations contre lesquelles il faut naturellement se rebeller. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose, voilà un parallèle, si vous voulez, là encore, comparaison des paraisons, mais si vous voulez voir un film qui vous présente ce qui se passe, alors, avec toutes les horreurs qu'on peut raconter sur eux et tout ce qu'ils sont censés faire, bien sûr. Hein, bon. Ce que je voudrais maintenant voir, c'est le troisième volet de cette population du temple en prenant le Dedea Syria, qui se trouve au deuxième siècle après le Christ. Mais si on a commencé au troisième millénaire et qu'on a poursuivi avec le deuxième millénaire et qu'on a fait un petit saut à l'époque néo-babylonienne, on peut aller jusqu'à l'époque grecque. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Si certains d'entre vous se sentent suffisamment hellénistes pour reprendre ce texte qui n'est pas très compliqué, avec la documentation mésopotamienne, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est une énorme porte vers des découvertes. Pourquoi? Parce que le Dedea Syria est un texte grec dans un dialecte ionien. Donc c'est pas, mais c'est assez facile à comprendre. Et nos amis classiques considèrent que toute la Syrie grecque et romaine, ça leur appartient. Et le problème est que il y a des Romains et des Grecs dans ces domaines-là, mais il y a aussi des indigènes et qui perpétuent des traditions plus anciennes. Et les choses qui ont été vues au IIe siècle après le Christ ne sont pas obligatoirement des traditions récentes, ça peut être l'avatar de choses plus anciennes. Le problème est que ça a été vu par des yeux de Grecs. Et que les Grecs, ils sont restés dans l'histoire comme étant les inventeurs du thème de barbare. Et les gens qui lisent le Dedea Syria, manifestement, se rendent compte que c'est scandaleux. Alors, l'édition française, vous pouvez la trouver dans celle de Chambry, qui est celle de La Garnier, sous le numéro 71. Lucien Samosat a énormément écrit. Si vous voulez savoir ce qu'il en est, vous regardez l'article de Marie-Françoise Ballet dans l'auteur du Dedea Syria et les réalités religieuses de Hierapolis. C'est extrêmement important parce que elle a fait l'inventaire des découvertes de l'archéologie moderne pour se rendre compte que ce qu'il dit dans le Dedea Syria, ce n'est pas un simple pamphlet de grec, mais c'est quelque chose qui est prouvé par les recherches archéologiques modernes. C'est-à-dire que, manifestement, celui qui a écrit le Dedea Syria a vu ce dont il a parlé. Parce qu'il y a trop de choses derrière, et ce n'est pas possible qu'il ait tout inventé. Et La documentation archéologique est là pour prouver que, soit par les monnaies, soit par les inscriptions, etc., que tout ça, c'est bon. Et si vous voulez avoir le contexte général, eh bien, il y a un très bon livre, ancien, mais qui est toujours à voir, qui s'appelle « Les cultes orientaux dans le monde romain », qui est publié en 89 par Robert Turcan, tout particulièrement sous ce titre évocateur, aux pages 129-191, « L'Oronte déversée dans le Tibre ». Mais ça, vous savez que c'est une traduction du latin. C'est un latin qui a dit « L'Oronte est déversée dans le Tibre » en voyant arriver toutes les horreurs orientales dans sa capitale. Bon. Sinon, pour le Dédé Assyria, vous avez une édition énorme à l'heure actuelle, dans 600 pages, mais en anglais, donc qu'on laissera de côté. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ce Dédé Assyria est un texte qui remonte à une plus haute époque? On en a la preuve par la naïveté du grec qui passe. Il est arrivé, il a vu toute une série de choses qu'il a interprétées à la grecque en disant « Ouh là là, comme c'est ridicule, comme c'est scandaleux, comme c'est oriental. » Et voici l'exemple. Alors, je vous dis simplement pour dire que ce n'est pas Hérapolis, mais Hierapolis, excusez-moi. C'est Hierapolis, ce n'est pas celle qui se trouve en Turquie, c'est Manbij, l'ancienne Mabog, alors qui se trouve ici à peu près, hein. Attendez, où est-ce que ça se trouve? Non, ici, voilà. Ça se trouve ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Quand on quitte l'Euphrate et qu'on arrive comme ça, c'est ici. Manbij, je se trouve ici. Regardez de quoi vous parle le grec. C'est dans ces propylées du temple, dit-il, que se dressent les phallus que Dionysios a élevés. Alors ça... Tous les temples syriens possèdent des phallus, ce qui montre l'impudeur naturellement de la race. Ils ont une hauteur de 30 brasses, c'est-à-dire des orgies, dit le texte, c'est-à-dire 55 mètres 5. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et y demeure l'espace de 7 jours. De cet endroit élevé, l'homme converse avec les dieux. Les dieux sont un peu sourds d'oreilles, n'est-ce pas? Si vous lui leur parlez d'en bas, ils n'entendent pas. Donc il faut que vous montiez. Vous montez, et alors là, Dieu entend un peu mieux, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle la grecque, si vous voulez. De cet endroit élevé, l'homme converse avec les dieux, les prie d'accorder leur faveur à toute la Syrie, et les dieux entendent de plus près ses prières. Bon. Alors, si vous regardez ces choses, pour un helléniste, bon, il va vous le traduire. La traduction de Chambry, elle est bonne. On n'échange rien. Bon. Ces phallus, c'est extrêmement simple. Ce sont les bétiles que vous trouvez dans tous les temples. Parce que à l'époque ancienne, on ne considère pas que la divinité est adorée au moyen de statues, mais au moyen de pierres levées. Alors, c'est normal que vous ayez le culte des phallus dans tous les temples, parce que chaque divinité est représentée par une pierre levée. Et cette pierre levée, en général, a... plutôt que de prendre une pierre ronde, il vaut mieux prendre une pierre taillée, et à ce moment-là, si vous l'adressez, et que vous ayez l'esprit mal tourné, vous imaginez que... etc. Bon. Alors, ils ont une hauteur de 30 brasses. C'est une correction du texte, hein. Parce que je vous ai mis un point d'exclamation. Et si vous allez voir le texte grec, vous en avez 300. Dieu entend mieux. Bon. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et il demeure l'espace de 7 jours. Les 7 jours, on les a déjà vus. On les a déjà vus pour les parties adventistes du temple. Ah, vous vous souvenez, on y reste pendant 7 jours. Or, on sait que dans les temples syriens, il y a des parties qui s'appellent les bétiles. Et un texte de ce genre pourrait très bien indiquer que ces parties adventices qui signifient les anneaux ou les choses comme ça que je vous ai montrées, bon, c'était peut-être les endroits où se trouvaient les pierres levées qui permettaient le culte et les différentes représentations de la divinité dans un monde où la statue n'existe pas encore. Bon. Mais vous voyez comment elle réagit. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et il parle à la divinité. Au deuxième siècle après le Christ, ces bétiles qui ne sont plus compris sont immédiatement interprétés par un voyageur grec comme étant un des endroits où un stylite peut se montrer. Vous savez, il y a toute une série, je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Siméon en Syrie, si vous êtes passé, vous avez le résultat, alors qui est haut comme ça, de la colonne sur laquelle Saint-Siméon a passé 49 ans ou 49 siècles, je ne sais plus, à dialoguer avec Dieu pendant que tout le monde lui apportait quelque chose. C'est un endroit de pèlerinage célèbre en Syrie. Les gens y vont en famille, pique-niquer tout autour. Et il y a une magnifique église tout autour, etc. Bon. C'est l'époque où il y a des gens qui se mettent sur des colonnes et du haut de la colonne harangue la foule qui leur apporte à manger et qui leur demande des conseils, etc. Et on a réinterprété la technique des bétiles comme étant les prodromes des stylites qui se multiplient à cette époque-là. Bon. Les dieux babyloniens, en général, ils s'entendent très bien quand on leur parle à voix basse. N'est-ce pas? C'est pas la peine de monter là-haut. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si déjà à cette époque, localement, eh bien, il n'y avait pas la réinterprétation par des stylites de ce style des bétiles, parce qu'on est à une époque où les statues sont apparues partout, naturellement. Et alors, les bétiles restent parce que ça représente des masses énormes qu'on ne peut pas dépasser, et on les remotive parce qu'on raconte d'eux. Et alors, et vous avez en plus, alors ça c'est encore d'un grec, si pendant les 7 jours qu'il est là-haut, qu'il doit parler à la divinité, il se laisse surprendre au sommeil, un scorpion monte le réveiller par une piqûre douloureuse. Vous imaginez le pauvre scorpion qui doit se taper 30 ou 300 mètres, n'est-ce pas, pour arriver. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est aiguillonné par la divinité. Mais là encore, une deuxième partie de ce que je vous ai montré, la partie adventiste, s'appelle les cornes. Et un Babylonien, quand il vous parle d'un scorpion, vous parle des cornes du scorpion. Il vous parle des cornes du scorpion. Le scorpion est un animal cornues, ce sont ces fameuses pinces, naturellement, etc. Et pour quelqu'un qui vient de la Mésopotamie et qui regarde cette source grecque, qui se voit les phallus, qui les réinterprète comme des bétiles, avec un réemploi de quelqu'un qui est un stylite qui monte, bon, un scorpion qui est les 7 jours qui sont les 7 jours que l'on doit passer dans cet endroit-là. Un scorpion qui monte avec pour le réveiller, alors qu'on sait qu'il y a une autre partie qui s'appelle les cornes, etc. Tout ça, on se dit, il y a un mélange absolument complet de traditions anciennes qui perdurent, qui ne sont plus comprises. Et alors, ce qu'on peut savoir, c'est en quelle langue est-ce que ce grec est allé parler aux gens de Mabog, comme on l'appelait à ce moment-là, Hierapolis. En araméen, sans doute. Bon, on ne voit pas à quelle autre langue il aurait pu parler. Il lui parlait en araméen. Qu'est-ce qu'il a compris et qu'est-ce qu'on lui a raconté? Moi, j'ai la conviction intime que les Syriens de l'époque, quand ils voyaient un grec arriver, eh bien, en rajoutaient pour que tu veux des horreurs, on va bien t'en raconter. Et vous savez que c'est le danger, justement, de tous les ethnologues, c'est quand ils posent trop de questions, ils ont toujours une réponse à la question. Toujours une réponse à la question. Et on s'en rend compte parce que tous les ethnologues n'ont pas les mêmes réponses. Ben, ça dépend, on ne fait pas plaisir à tout le monde de la même façon. Alors, Il y a, voici deux exemples, il y a dans le DDA Syria quelque chose qui est à reprendre à frais nouveaux, avec les traditions nouvelles, à le remettre dans le long devenir du temple mésopotamien. Et il ne faut pas laisser ça uniquement aux Grecs, ni aux hellénistes, ça revient au même, parce que les gens vous disent, oui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous voyez, il n'est pas allé là-bas. Et alors, le grand argument, c'est que ce texte est sans humour et c'est la preuve que ce n'est pas de Lucien. Comme si Lucien ne pouvait pas dormir quelquefois. Regardez un autre aspect de ce texte, le Dédé Assyria 42. On a institué un grand nombre de prêtres. Alors, je laisse des choses purement grecques qui sont à côté. Les uns égorgent les victimes, les autres apportent des libations. Ça, c'est exactement ce qu'on attend d'un rite sémitique. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui fait tout. Comme un prêtre qui rentre avec sa chasuble dans l'église et qui, jusqu'au moment où il partira, est le coordinateur et qui est le garant de l'acte sacré. N'est-ce pas ? En réalité, chacun fait une partie des choses. Les uns égorgent les victimes, les autres apportent les libations. Il y en a qui sont appelés portefeux, alors ils apportent les bougies, les candélabres, et d'autres assistants. Alors, assistants, je ne sais pas ce que c'est. Lors de ma visite, il y en avait plus de 300 qui prenaient part au sacrifice. Et effectivement, il y a plusieurs, etc. Et alors, naturellement, il y a encore... Alors, ça, c'est la partie noble du temple, celle que l'on avait vue, les prébendiers, les gens qui font de l'argent avec les différents moments du sacrifice, qui récupèrent une partie des victimes et tout le reste. Et puis, vous avez l'autre population. Regardez ce qui arrive. Il y a encore une foule d'autres personnes attachées au service du temple, joueurs de flûte et de syrinx. Si vous vous souvenez du tintamarre sumérien de tout à l'heure, hein, vous voyez que, flûte et syrinx, alors syrinx, je ne sais pas quel son ça peut faire. Galles et femmes en folie au cerveau dérangé. Alors, femmes, naturellement, il doit les juger d'après les robes. Il est tout à fait possible que ce soit des galles qui se soient costumées en femmes. Femmes en folie au cerveau dérangé. Il y a une étymologie extraordinairement complète et complexe concernant le terme de Galles. Personne ne comprend le terme. Bon. Et quand vous dites Galos, en grec, les gens comprennent. Eh bien, c'est un Gaulois, hein, un de nos ancêtres, ou bien c'est un coq. Et il y a des passages, effectivement, dans le Dédé Assyria, où manifestement il y a un Gal qui s'occupe de quelque chose et l'homme qui a visité n'a pas compris ce qui se passait et il dit il y a un coq alectruone qui se promène le long de du lac sacré et qui reçoit des offrandes et qui en donne, etc. Et alectruone dans ce texte-là est certainement une mécompression, une mécompréhension pour le terme de Galos. Je vous dirai maintenant que d'un point de vue mésopotamien, Gala, ça se comprend parfaitement. Galos, c'est Gala en sumérien, n'est-ce pas ? Et, ou en acadien. Et vous avez à ce moment-là, si c'était vrai, la preuve définitive que ça se rattache à une autre perspective que la perspective purement grecque. Parce que alors, gens vous disent Gal, oh, ça doit être un terme qui vient d'Anatolie. L'Anatolie est le pandémonium d'où sont sortis tous les démons linguistiques et où retournent tous les démons linguistiques de la même façon. Bon. Alors, voilà les passages 50-51, on avait là, c'est 42, 50-51, qui va vous montrer comment ça se passe dans le temple de Hierapolis. À certains jours déterminés, le peuple s'assemble dans le temple. À certains jours déterminés. Pas tout le temps. Vous l'aviez vu pour Idine Dagan, on attend que la déesse Vénus, la planète Vénus apparaisse à un moment privilégié de l'année. Sinon, elle est très souvent présente dans le ciel, syrien. Vénus est très souvent présente. Un grand nombre de Galles et les hommes attachés au service des dieux dont j'ai parlé célèbrent les mystères, se tailladent les bras et se frappent mutuellement sur le dos. Plusieurs musiciens, debout de près d'eux, leur jouent de la flûte. Beaucoup battent du tambour, d'autres chantent des cantiques inspirés et religieux. Bon, alors là, j'imagine que la langue dans laquelle ça a été fait, le grec a regardé sans rien y comprendre. Et il n'est même pas sûr, avec ce que l'on peut savoir de la littérature sacrée de l'époque, que si toute la population était araméenne, ils aient chanté en araméen. Ils ont dû chanter des chants qui venaient de Dieu sait quelle époque, et quand on a des incantations sumériennes à l'époque récente, on les regarde avec admiration parce qu'on se rend compte, à droite ou à gauche, qu'il y a du sumérien qui apparaît, et c'est devenu quelque chose que l'on appelle d'un terme qui veut bien dire ce que ça veut dire, des abracadabras. Abracadabras parce que on se rend compte, alors quand on a les versions anciennes, on sait d'où ça vient et on voit comment ça a été changé. Mais si vous n'avez que la version récente, mais c'est du babébi bobou. Alors, mais que la version ancienne, vous savez très bien comment ce que ça signifie. Mais sinon, c'est bou babi bobou bo, etc. Ce sont des bruits. Et les chansons, les cantiques inspirés et religieux, c'est certainement des choses héritées d'un temps plus ancien et qui n'étaient plus compris. Et regardez le 51 qui est très intéressant. C'est dans ces jours que se font les Galles. Et c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que les Galles, de façon plus précise, ce sont les Courgaras. Les autres, ce sont des Assinous. Ce sont des gens mélangés, des hommes-femmes, des hommes qui ont des activités de femmes, qui sont scandaleux, etc. Bon. Mais c'est en ces jours que se font les Galles. Lorsque l'on joue de la flûte et qu'on célèbre les orgies, la fureur, ce que je parlais de frénésie, hein, la fureur se communique à un grand nombre d'assistants. Et beaucoup d'hommes qui étaient venus pour voir, ça c'est la folie contagieuse, des hommes qui étaient venus pour voir, se livrent aux actes que je vais dire. Le jeune homme qui se décide à être Galle jette bas ses habits, ses vêtements. Vous vous souvenez tout à l'heure, il y en avait une partie qui était habillée comme des hommes, et les autres qui avaient mis bas l'habit. Bon. Il se jette bas ses vêtements, s'avance au milieu de l'assemblée en poussant de grands cris, et saisit un coutelas parmi ceux qui sont réservés pour cet usage depuis de nombreuses années. Donc c'est un rituel, c'est un matériel sacré, on ne va pas chez le droguiste d'à côté acheter un couteau, ils sont déjà consacrés. Hein, bon. Avec ce couteau-là, il se châtre brusquement et court par la ville, tenant dans ses mains ce qu'il s'est retranché. La maison où il va le jeter lui fournira une robe de femme et tout ce qui sert à la parure du sexe. Et quand vous avez ce texte, vous voyez enfin apparaître, à côté du grand hymne de Idindagan A, où vous avez des moments rituels qui sont exprimés dans une langue châtiée et relativement élégante qui est le sumérien liturgique, vous avez ici le spectateur qui vous raconte ce qui se passe. Et c'est la différence qu'il y a entre les différents moments du rituel et le récit du rituel. Mais si vous avez simplement les têtes de chapitre, bon, bah, vous suppliez comme vous le pouvez. Et moi, je pense que tous ces textes sont à mettre ensemble, parce qu'ils ont tous en commun le fait qu'ils ont une grande déesse à côté. Vous avez le bruit, vous avez la fureur, vous avez l'ivresse, l'automutilation, tout ça qui arrive. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à fait au début à propos des rites concernant Dumuzi. Les gens vous disent « Oh, ça part de Sumer et ça arrive via Marie, ça arrive jusqu'à la Phénicie. » Non, pas du tout. Ce sont des rites qui sont pan-syriens et qui apparaissent à des moments différents de la littérature. Ce sont des moments de la documentation qu'il faut compléter tous les uns par les autres. Alors, il est bien évident que vous n'allez pas sortir du texte de Lucien, le commentaire précis de ce qui se passe à Isin à l'époque sumérienne. Mais d'une façon globale et générale, oui, vous pouvez voir en gros comment les choses se passent. Et vous retrouvez cette mentalité orientale qui a tellement choqué les gens qui venaient d'ailleurs et qui l'ont constaté. Et qui, parce que, alors, naturellement, tout ça s'est passé après du côté de l'Occident. Ils sont arrivés en Grèce et ils sont arrivés après à Rome. Et vous avez lorsque l'Oronte se déverse dans le Tibre. Ça, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. C'est sous le signe du scandale. Alors, l'autre chose que nous regardons, alors, ça, c'est un texte, comme il est humoristique, est attribué à Lucien. Le changement de Lucien en âne. C'est un ouvrage qui est extrêmement drôle. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous engage très vivement à le lire, au moins pour le plaisir. Hein. Vous avez le même rituel. Ce sont des prêtres parce qu'ils sont autour d'une déesse, bien sûr. Vous avez un grec qui vous raconte la même chose. Il est transformé en âne. Alors le malheureux, il porte naturellement la déesse et les sacs. Hein. Après avoir paré la déesse, ils, ce sont les prêtres, les crapules, n'est-ce pas, la mirent sur mon dos. Bon, c'est l'âne qui parle. Puis nous sortîmes de la ville et parcourûmes la campagne. Quand nous arrivions dans un village, moi qui portais la déesse, je m'arrêtais. Alors ça, c'est les gens qui vont de ville en ville et qui ne, c'est tout à fait l'époque récente parce qu'ils quittent leur temple et ils vont se faire voir ailleurs. Hein, ils vont faire de l'argent ailleurs. Moi qui ai porté la déesse, je m'arrêtais. Alors la troupe des flûteurs, et ça va recommencer chaque fois, la troupe des flûteurs soufflait dans leurs instruments comme des possédés. Et les prêtres jetant leurs mitres à terre. Ça veut dire qu'il y a une influence qui vient du côté de l'Iran. Ce sont des gens qui sont, ils sont devenus plus orientaux que les orientaux. Mais leurs mitres, c'est le terme employé par les Grecs, il faut savoir comment ils appelaient ça en babylonien. En sémitique, peut-être qu'on retrouverait des termes connus par, chez nous. Mais c'est intéressant que le grec les comprend comme des Iraniens à ce moment-là. Hein. Jetant leurs mitres à terre, relevant et tordant leurs têtes sur leurs épaules, se faisaient des coupures aux bras avec des épées, et sortant leur langue entre leurs dents, ils se la tailladaient aussi, de sorte qu'en un instant, tout était plein de sang frais. Et vous retrouvez alors, la même scène que vous avez du côté de Idin Dagan A. Quand ils s'étaient ainsi tailladés, ils recueillaient parmi les spectateurs qui les entouraient des oboles et des drachmes. Bon, il faut bien faire vivre le clergé et la déesse. Hein, je considère que des oboles et des drachmes en échange de se taillader, c'est quand même assez agréable de ne pas faire ça pour rien. Bon, voilà donc, si vous voulez, trois sources qui nous montrent à peu près le déroulement d'une certaine idéologie dans un temple autour de la déesse. Bon. Nous revenons à Marie maintenant et c'est là que nous allons voir eh bien, ce que c'est que les Assinous à Marie, parce qu'on les a nous aussi. Et on va voir. Et on va voir que c'est un asocial, qu'il est marginalisé et qu'il fait groupe avec des fous et avec le prophète chic qui est Lapiloum et Lapiltoum. Et c'est là maintenant que nous allons voir tout ce que cette littérature qu'on a vue depuis le troisième millénaire jusqu'à l'époque grecque, et qu'il ne faut pas scinder en fonction des philologies, en disant « Ah, ça, c'est du sumérien, ah, ça, c'est du grec, ça ne marche pas ensemble. En » un historien prend toute la documentation et essaye d'en faire quelque chose. Nous allons voir à ce moment-là de quel prix, à quel prix a-t-on des prophéties. Et vous allez voir que chez les Bédouins, ça marche, et chez les Babyloniens, ça ne marche pas. Voilà. Réveillez-vous, c'est fini.